Roselyne et Olivier de Cigaloni. Bonjour, bienvenue sur Radio Maria.
Chers bonjour. Auditeurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous sommes
Roselyne
et Olivier de Cigaloni.
Nous nous sommes donné le sacrement de mariage il y a 34 ans et avons une fratrie de 3 enfants qui nous a été confiée dans le cadre de l'adoption internationale.
Nous sommes aux équipes Notre-Dame depuis 32 ans et avons été appelés à la responsabilité d'une des 4 provinces qui constitue la super-région France-Luxembourg-Suisse.
Nous allons vous parler aujourd'hui du couple, de l'enfant, notre premier prochain, et de la transmission de la foi à travers la pensée du Père Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame.
Chacun de ces points, couple, enfant et transmission, constituera une partie spécifique de notre propos.
Le couple. Mais Olivier, qu'est-ce qu'un couple ?
Un couple. N'est-ce pas un terme un peu galvaudé ? À quoi fait-il référence ? Ne dit-on pas « il ou elle vit en couple » Mais est-ce un couple homo ou un couple hétéro? Cela fait-il allusion à une cohabitation sans engagement, ponctuelle? Ou à un couple paxé, marié civilement, voire marié religieusement?
Mais quelle est la particularité d'un couple chrétien uni par le sacrement de mariage, Olivier?
Roselyne, sais-tu que le sacrement de mariage est le seul sacrement de mariage, le seul dont l'objet est non pas un individu, mais la communauté de deux individus.
Dans une lettre aux équipes de 1962, le père Caffarel précisait « Ce sacrement fonde, consacre, sanctifie cette petite société unique en son genre que forment l'homme et la femme mariés, branchés sur le corps mystique. »
C'est-à-dire le Christ. Notre force en tant que couple est d'autant plus grande que nous nous reconnaissons faibles et notre couple ne peut durer que grâce à ce lien, grâce à cette sève du corps mystique. Aujourd'hui, l'amour est considéré comme un ressenti qui nous est tombé dessus, pouvant être limité dans le temps. Je t'aime, je te veux, faisons l'amour. Ou alors, je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien. Quand la fascination disparaît ou s'étiole, ces couples pensent que c'est normal, qu'ils ont commis une erreur. Et qu'il leur faut encore trouver la véritable âme sœur qui s'avère trop souvent être la première personne sexuellement attirante qui passe.
À la différence de ces couples, les couples chrétiens s'appuient sur 3 certitudes. Ils s'appuient en premier sur leur sacrement, dans lequel le Christ s'engage avec eux, en même temps qu'eux. Les maths du Christ sont particulières, puisque pour lui, 1 + 1 = 3.
Le Concile Vatican II précise que les époux, en accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ, qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité, parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu.
En second, le couple chrétien s'inscrit dans la durée, avec la volonté de s'aimer. Le mariage est un chemin. Le combat pour la chasteté et la fidélité est toujours d'actualité. L'essence de l'amour est un acte de volonté. Ceux qui vivent dans un mariage heureux sont ceux qui ont choisi. Choisi d'aimer sa femme ou son mari plus que soi-même. Choisi de sacrifier son désir éphémère pour un bonheur durable. Choisi de donner plutôt que de prendre. Cette notion de durabilité est finalement très moderne et en ligne avec les enjeux environnementaux actuels. Enfin, en troisième, le mariage chrétien est un véritable engagement, libre, sans restriction, irrévocable, tourné vers la vie. Un engagement signe de l'amour du Christ pour l'humanité.
Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, « Je suis au milieu d'eux, dit le Christ. »
Le Christ est donc présent dans le couple. Et saint Jean Chrysostome de dire que le couple est une
« Église en réduction »
dans la fonction et le culte de Dieu. Ok Olivier, mais qui dit couple, dit amour. Alors, qu'est-ce qu'aimer ?
Aimer. Aimer, c'est en premier transformer son regard en regardant son conjoint comme Dieu le regarde. C'est abandonner notre regard critique pour adopter un regard d'amour. C'est nous mettre à la place de l'autre. Chacun de nous devrait pouvoir plagier saint Paul.
Je t'aime, mais ce n'est plus moi qui t'aime. C'est le Christ qui t'aime en moi. C'est lui qui se donne par moi.
Aimer, c'est en second, prendre en charge son conjoint pour le faire grandir et promouvoir sa vie spirituelle. Aimer, c'est vouloir ton bien, Roselyne. C'est faire de toi une plus grande personne en épousant ta cause, en faisant tout pour que tu réalises ta vocation, en étant responsable de ton épanouissement, de ta perfection personnelle. C'est être transparent l'un pour l'autre, afin de pouvoir nous comprendre et nous porter dans les faiblesses pour en être fortifiés l'un par l'autre. C'est aussi et surtout promouvoir ta vie spirituelle en favorisant le développement de ta générosité envers Dieu et ton prochain.
Le père Taffarel avait l'habitude de dire « Vous êtes, par le Christ, chargé de mission auprès de votre conjoint à l'exemple du Christ s'incarnant et se constituant responsable du salut de l'humanité. »
Oui, nous avons à nous entraider l'un l'autre dans une attitude empreinte de charité, à nous aimer et aimer chaque jour un peu plus le Christ en nous et dans l'autre, pour permettre à chacun d'avancer vers sa propre perfection en recherchant sans cesse l'épanouissement de l'autre. Aimer, c'est aussi se donner à l'autre et accueillir le don de l'autre. Aimer, c'est donc se déposséder au profit de l'autre. Plus on se reconnaît pauvre, plus on sait donner et se donner. Mais c'est aussi accueillir, accepter l'autre, non pas comme on souhaiterait qu'il soit, mais tel qu'il est. C'est reconnaître que l'on a besoin de l'autre.
Accueillir quelqu'un, dit Jean Vanier, c'est lui ouvrir la porte de son cœur pour lui donner de l'espace.
Cet accueil doit précéder le don, car l'autre doit se sentir accepté, bienvenu. Nous avons aussi des pardons à donner et à recevoir pour arriver à combattre ensemble le mal, pour arriver à être un amour toujours plus parfait.
Le pape François nous rappelle qu'être heureux, c'est trouver la force dans le pardon pour apprendre les leçons de ses échecs. C'est avoir le courage de dire « je suis désolé ». C'est avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ». Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie.
Aimer, c'est enfin se laisser conduire en tout par l'amour de Dieu. Henri Caffarel enseigne que l'Esprit Saint est le grand don du Christ à la petite Église. Il infuse la charité dans les cœurs, suscite la prière. Il garde et approfondit aussi le lien du foyer avec le corps tout entier. Par cette charité, il travaille à guérir et sanctifier le couple. L'amour conjugal se transforme ainsi peu à peu en charité conjugale. Amour gratuit où on s'oublie pour encourager son conjoint à placer Dieu en premier, à céder la place au Christ pour lui permettre d'agir. Chers auditeurs, écoutons le père de Habsbourg illustrer ce que nous venons de dire.
Quand Jérôme a rencontré Astrid il y a plus de 40 ans, il n'était pas pratiquant. De son côté, Astrid avait baigné dans la foi depuis son enfance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun d'eux a été un instrument pour aider l'autre à devenir une meilleure personne. La charité et la paix règnent dans leur foyer. Doucement, ils ont commencé à donner une vraie place à Dieu dans leur couple. Et ainsi, ils ont su accueillir de mieux en mieux l'autre au long des étapes de leur vie ensemble. Aujourd'hui, ils vont à la messe et prient le chapelet presque tous les jours. Leur enthousiasme donne envie à tous leurs amis de passer du temps avec eux et de se confier à eux. Probablement, ces amis ne diraient pas qu'Astrid et Jérôme sont des saints, mais qu'ils donnent envie de mieux aimer et de s'approcher de Dieu.
Mieux s'aimer, se rapprocher de Dieu. Nous désirons tous cela, mais nous sommes incarnés. Et pour vivre à deux notre foi, nous avons besoin de tuteurs.
Le premier est l'Eucharistie. À chaque Eucharistie, nous, Roselyne et Olivier, réactivons notre alliance, renouvelons notre oui à l'autre et à Dieu. La communion au corps du Christ nous aide à nous aimer comme Dieu nous aime, en nous oubliant nous-mêmes pour que l'autre vive. Et puis, il y a l'écoute de la parole divine qui permet à Dieu d'entrer dans notre dimension temporelle et nous permet de connaître ce Dieu, de l'aimer, de l'imiter, d'y puiser notre vitalité. Nous laissons pénétrer en nous ces paroles d'amour, vivantes, agissantes, dans l'intime de notre cœur. Cette parole d'amour qui nous délivre du mal fonde la communauté d'amour de notre couple. Chers auditeurs, méditons les paroles du Christ. Elles nous permettent de mourir à nous-mêmes pour nous ouvrir à l'autre. Après l'Eucharistie, l'écoute de la parole, la prière conjugale est comme si nous disions tous les soirs le oui de notre mariage. Nous nous reposons à deux, en Dieu, main dans la main. C'est un moment privilégié où nous cherchons la volonté de Dieu sur notre foyer.
Quand cet homme et cette femme prient, dit le Père Caffarel, c'est la prière de son Fils bien-aimé que le Père des cieux entend. Parce que, dans leur cœur, l'Esprit du Christ inspire leurs sentiments.
Osons prier comme le Père, osons prier le Père, comme le Christ nous l'a montré, et rejoignons Marie à travers le Magnificat pour chanter la joie de cette présence divine dans notre foyer. Vous me direz que tout cela, en théorie, semble facile. Oui, en théorie, car il n'est pas toujours facile de s'exprimer devant son conjoint, et cela demande du temps. Et si pour mieux vous comprendre, vous faisiez une soirée couple une fois par mois. Le devoir de s'asseoir est un temps de dialogue sous le regard de Dieu pour prendre du recul. Temps de vérité, d'amour où le « je », c'est-à-dire le ressenti, comme l'écoute et l'accueil sont la règle. Il nous permet d'aborder en profondeur des sujets souvent éludés du quotidien trépidant. Un autre tuteur capital est la retraite, où en couple, nous nous extrayons du monde pour y revenir fortifié, régénéré dans notre vie conjugale, repartant sur des bases saines et, nous oserions dire, saintes. Enfin, notre dernier tuteur est l'oraison, moment que l'Esprit-Saint attend pour se faufiler au fond de notre cœur.
Couple marié, l'enfant est notre premier prochain.
Si chaque époux est chargé de mission auprès de son conjoint, les deux époux, ensemble en tant qu'ils ne font qu'un, sont chargés de mission auprès de leurs enfants, dit Henri Caffarel.
Cette mission est d'être fécond par l'accueil, le rayonnement et la transmission de la foi. Nous sommes mariés pour être féconds. La première de ces fécondités est souvent la venue d'un enfant. Dans notre couple, l'enfant n'est pas venu. Cela a été une source de grande souffrance. Comment coopérer d'une autre manière à la croissance du corps mystique? Pour nous, cela a été dans le cadre de l'adoption. Être des Saint-Joseph pour des enfants sans parents. Jésus n'était-il pas lui-même un enfant adopté? Pour d'autres, comme nos amis Marie-Camille et Bruno, cela a été dans le cadre d'une fécondité non filiale, en aidant au développement des jeunes qui se sont trouvés sur leur chemin. Ils se sont ainsi consacrés pleinement et avec joie à la formation des jeunes dans le scoutisme. Mais cet enfant à qui nous avons donné la vie, que nous avons adopté ou encore formé, comment l'aimons-nous? Comme une continuation et un substitut à nous-mêmes? L'aimons-nous pour lui-même, comme une personne autonome ou comme notre prolongement? Ou alors, l'aimons-nous d'un amour désintéressé et libre qui consiste à le faire se découvrir lui-même, à faire éclore sa personnalité pour être un homme ou une femme vraiment libre? L'enfant ne nous appartient pas et nous devons l'aider à être lui-même et non ce que nous avions rêvé.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés, dit Khalil Gibran.
Le charisme du foyer chrétien est de multiplier les fils de Dieu, de former ces pierres vivantes dont parle Saint-Pierre qui doivent former l'Église. Notre rôle est de les éduquer pour en faire des êtres libres, capables de choisir, capables d'aimer et de dire oui à Dieu.
Olivier, nous sommes mariés aussi pour que le culte de Dieu puisse se poursuivre.
Tu as raison, le père Caffarel développe cette idée en disant « Le grand objectif de la fécondité du couple, consacré par le sacrement de mariage, est d'engendrer et de former des adorateurs en esprit et en vérité pour que se poursuive le culte du vrai Dieu. »
Notre mission de parents chrétiens n'est pas seulement d'aimer notre enfant, mais de l'aimer à la manière du Christ, pour lui permettre de devenir un vrai disciple du Christ. Nous ne pouvons pas donner la foi, mais nous pouvons nous donner. La foi a mis Dieu en nous. Nous pouvons le donner en même temps que nous.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît, dit Jésus.
La recherche du royaume doit donc passer en premier. Que penseraient les enfants dont les parents sont préoccupés en premier par leur réussite humaine? Succès aux examens, beau métier, beau mariage, belle situation sociale.
Le père Caffarel vous conseillerait ceci. Vous ne les aiderez efficacement à devenir ces vrais disciples de Christ que si vous les aimez à la manière du Christ.
Tiens, nous avons dit cela tout à l'heure pour le couple. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et il poursuivait.
Savez-vous ce qui manque le plus à vos enfants? Le pain? Le toit? Les vêtements? L'instruction? Non! L'enseignement religieux? Non plus! Votre compétence en matière d'éducation? Oui, parfois. Votre amour pour eux? Peut-être. Mais ce qui leur est bien plus nécessaire et qui leur manque si souvent, c'est que vous priez pour eux, vous, leur père. Que dans leur combat, vous, leur père, soyez en prière sur la montagne, en tête à tête prolongée avec le Seigneur.
Ne disons pas, je n'ai pas le temps. On peut toujours en trouver. Il y a des pères, comme des mères, qui se lèvent la nuit pour prier une heure pour leur famille.
Le Christ nous dit, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux.
Et le père et le frère Thierry Joseph d'ajouter,
la prière des parents amasse des flots de grâce devant la porte de l'enfant. Seul ce dernier peut ouvrir son cœur à Dieu qui nous veut radicalement libre. Le jour où le jeune se décide, Dieu y entre plus facilement.
Travailler au salut de ses enfants, de sa famille, c'est d'abord prier pour eux, afin de bien pouvoir les comprendre, pour les aider et les aimer mieux. Notre mission de parents commence donc par la prière pour nos enfants, car le don de l'Esprit Saint est le moteur de leur croissance. L'efficacité de la prière des parents se trouve dans le fait d'assumer leur impuissance dans l'espérance. C'est ce que nous appelons le lâcher-prise. Qu'est-ce que le lâcher-prise? C'est faire confiance, c'est être humble. Olivier aime beaucoup cette phrase de saint Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. Dans nos familles, il nous est parfois difficile de garder l'espérance quand on voit certains de nos enfants fragiles prendre des voies sans issue ou encore s'éloigner de l'Église. Dieu ne nous promet pas que tout ira bien dans nos vies, mais plutôt qu'il sera toujours là. Nous ne pouvons pas vivre à la place de notre fils, de notre fille. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne pouvons pas aller contre leur liberté. Nous pouvons avoir alors le sentiment d'être crucifiés par le choix de nos enfants.
Mais le père Caffarel nous dit, le Christ, en se soumettant totalement à la volonté de son père, a affirmé son amour et confessé qu'il était juste que souffre et meure son corps pour rendre hommage à l'intransigeante sainteté de Dieu. Mais voici que par la mort et la résurrection, cette nature humaine qu'il avait épousée passe de la condition de péché à la condition glorieuse.
Et de nous proposer une piste pour le salut de nos enfants.
Le mal rôde autour de nos enfants. Sans la pénitence, nous ne rachèterons pas nos enfants. Grâce à elle, au contraire, Dieu resplendira en eux.
Il y a donc deux bases essentielles dans notre mission de parents, la prière et la pénitence.
Couple marié, nous avons à transmettre la foi, c'est-à-dire faire découvrir à l'enfant la grandeur de Dieu et le tourner vers ce Dieu intérieur. L'éducation est une affaire d'amour. Nous, couple, dans notre sacrement de mariage, recevons la mission de montrer l'action de Dieu notre Père, montrer l'amour du Christ pour les hommes et donner à notre enfant le sentiment
que Dieu l'a pris en charge, qu'il est son éducateur
et que nous ne sommes que ses collaborateurs. Mais comment ? Le Père Caffarel nous donne une belle image.
La grâce du mariage donne aux enfants le cœur de Dieu, les mains de Dieu. Pour façonner de jour en jour ce chef-d'œuvre, un enfant semblable à son enfant.
Transmettre d'abord par l'exemple.
Dans notre foyer, la qualité de notre amour doit faire transparaître le Dieu d'amour. Vous devez chaque jour essayer d'être un vitrail qui n'est magnifique que par la lumière qui vient de l'intérieur. Le couple est beau par celui qui habite en lui et se manifeste au travers de lui. Nous disait le Père Lecourt.
Faisons transparaître le Dieu d'amour par notre façon d'être. Faisons sentir à notre enfant que nous sommes amoureux, que nous l'aimons et que cet amour vient de Dieu. Comment lui faire sentir cette tendresse conjugale? Tout d'abord, par des gestes exprimant notre affection réciproque. En voyant son père offrir des fleurs à sa femme, en voyant sa mère dire un mot tendre à son mari. En les voyant se sourire, s'embrasser, ou encore en les voyant se réconcilier après une dispute. Cette tendresse conjugale dont notre enfant est témoin est la plus belle école de vie et d'amour. Mais aussi en nous aimant, nous témoignons que nous sommes
l'union de deux chercheurs de Dieu,
montrant que tous les moyens sont bons pour rejoindre le Christ. Ce peut être par la lecture de l'Évangile, par notre prière, par le chapelet, prier sur le chemin entre la maison et le bureau, ou en couple, dans la voiture, pendant nos voyages. Il arrive même que dans la voiture, l'un ou l'autre des enfants nous accompagne en disant une dizaine. Ce peut être aussi par notre participation active à l'Eucharistie le dimanche, mais aussi en semaine. Quand l'un ou l'autre lit la parole de Dieu lors d'une Eucharistie, il ou elle est porteur de ce message d'amour pour ses frères. Quand Roselyne dirige les chants au pupitre, elle montre sa joie de louer Dieu. Il y a aussi des « je te demande pardon » alors que les enfants sont là.
Cependant, l'exemple ne suffit pas et nous avons comme mission de transmettre surtout en ayant le courage de dire ce que nous savons de Dieu et d'agir. Premièrement, le dire. Nous enseignons le langage des hommes, mais aussi le langage de Dieu. Le Père Régis Lecourt confiait dans une homélie de mariage.
Nous avons à construire un pont, celui entre les hommes et Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, le concept de laïcité montre une indifférence à l'égard de la foi chrétienne. Si nous ne disons pas à nos enfants que Dieu les aime, qui le leur dira ? Dieu a envoyé son Fils sur terre jeter un pont entre l'humanité pécheresse et Dieu. Si nous ne l'expliquons pas à nos enfants, comment le sauront-ils ? Notre couple, dans son sacrement de mariage, reçoit la mission de montrer l'action du Père et de leur faire connaître l'Évangile.
Notre mission est donc de parler de Dieu, d'expliquer Dieu, et de proclamer à haute et intelligible voix l'Évangile dans lequel notre fils, notre fille, voit la grandeur de Dieu. Par la force de nos convictions, nous l'aidons à agir gratuitement pour l'amour de Dieu, à annoncer Jésus-Christ qui sauve nos vies. L'écoute de la bonne nouvelle, cette lettre d'amour de Dieu qui nous est adressée, et sa compréhension est essentielle pour qu'il ou elle entre dans le salut, dans ce mystère du salut. En écoutant la personne du Christ, sa façon d'être et d'agir, sa pensée, il devient vivant, quelqu'un de réel, avec lequel nous pouvons vivre chaque jour et que nous pouvons chercher à imiter. Nos enfants apprennent ainsi à se poser la question : que ferait le Christ à ma place dans cette situation ? Après le dire, transmettre par le faire. La famille est un lieu d'amour où chacun apprend à vivre en société et à recharger ses batteries.
Le père Caffarel disait que l'éducation doit faire de l'enfant un être libre, capable de choisir, capable d'aimer, et qui lui-même pourra se donner à Dieu. Éduquer, c'est donc apprendre à l'enfant à se libérer.
Mais comme nous le précise le pape dans Christus Vivit,
il doit être accompagné.
Nous avons à aider notre enfant à apprendre à se libérer de lui-même, comme du monde extérieur qui l'entoure, et de sa famille, à affirmer sa personnalité. Nous devons lui consacrer du temps, avoir pour lui des qualités d'accueil, de compréhension, de don de soi, d'écoute, de dialogue, d'incitation à aimer, pour mettre l'accent sur le meilleur de lui-même, et non sur ses défauts comme nous le faisons souvent. Nous avons aussi à le préparer à choisir Dieu, en stimulant sa foi, son espérance et sa charité, des vertus qui viennent de Dieu, mais qui passent par notre témoignage.
Gardez vos cœurs et vos pensées dans le Christ, dit saint Paul.
Aidons-le à être en Dieu, comme Dieu est en lui. La parole de Dieu doit habiter en lui dans toute sa richesse. Elle le façonne, le transforme, l'émonde tout au long de sa croissance. Elle lui permettra de vivre de nombreux engagements et de transformer son regard sur la vie. Si notre enfant fait confiance à la parole, il pourra mourir à lui-même pour s'ouvrir à d'autres.
Tu es chargé de crier l'Évangile, non par tes paroles, mais par ta vie, dit Charles de Foucault.
Tous les moyens sont bons pour aimer Jésus et la Vierge Marie. Comment ?
Par la prière. Sur nos genoux le soir, notre tout-petit apprend à aimer Jésus et Marie en leur envoyant un baiser.
À ce moment, écrit le pape François, le cœur de l'enfant se transforme en un lieu de prière.
On montre aussi notre amour en chantant un bénédicité avant de déjeuner ou dîner pour remercier Dieu et montrer que nous sommes heureux d'être ensemble à table. Sur le chemin de l'école, il est facile d'admirer un lever de soleil, un petit oiseau qui gazouille, un arc-en-ciel, et de remercier le Seigneur pour sa création. Mais nous pouvons aussi aimer Jésus et la Vierge Marie par des propositions que nous, parents, pouvons faire. Ce peut être de créer, avec nos enfants, un petit oratoire familial. Ce sera le coin de Dieu. Il fait ainsi partie de la famille. Ce peut être aussi d'organiser nos activités autour de la messe, le dimanche. Dieu premier servi. Ce peut être encore de créer des situations favorables, comme Édith et Barthélemy nous témoignent.
Les prêtres et moines sont régulièrement invités à la maison. Les rencontrer hors de leur contexte habituel rend leur état de vie plus accessible et naturel. Nous avons aussi souvent fait des retraites en famille. Outre le ressourcement que cela procure, nous sommes convaincus que le fait de rencontrer d'autres jeunes qui vivent la même chose est porteur de sens.
Dans le faire et aussi le dire, il y a un moment à part. C'est la prière familiale. Cette prière est ancrée dans notre prière conjugale, culte à Dieu du couple, qui s'épanouit en famille dans la prière familiale, culte à Dieu de tous. Dans cette prière, l'attitude des parents priant avec et comme leurs enfants est essentielle dans leur construction. Écoutons Michel Martin-Prével.
On ne dira jamais assez combien un papa à genoux avec ses enfants, tourné vers le Seigneur, peut marquer à vie la conscience d'un enfant pour lui apprendre l'attitude vraie en face de son Dieu. Son père, son propre père, se soumet au Père du ciel. En mettant les parents à genoux avec leurs enfants, la prière fonde leur autorité qu'ils tirent de la paternité divine.
La prière est préparée par les parents, où chant de louange, prière récitée, évangile et intention ont leur place. Par le biais des intentions, l'enfant est amené à comprendre que par sa prière, il participe à la vie de l'Église. Une large place est consacrée à l'écoute de l'Évangile et à son explication par l'un ou l'autre. La réaction de nos enfants à la question « Qu'est-ce que me dit Jésus dans ce que je viens d'entendre ?» leur permet de se l'approprier. Cette parole façonne, transforme et molde notre enfant tout au long de sa croissance. Un temps de silence est laissé ensuite pour laisser infuser en soi ces paroles.
La famille apprend à se taire ensemble auprès de Dieu. Dans ces moments de silence, plus peut-être que vous ne le pensez, vos garçons et vos filles s'initieront à l'oraison, dit le Père Caffarel.
Dans le cadre de cette prière, nous pouvons demander et recevoir un pardon sous le regard de Dieu. Pardon qui est source de joie, de paix et occasion de mieux aimer. Ce peut être un pardon entre l'un de nous et un de nos enfants, ou entre les enfants entre eux. C'est aussi le lieu idéal pour favoriser la charité dans la famille. Car parents et enfants sont tous des enfants de Dieu, à égalité. Et nous avons pour rôle de nous aider les uns les autres à progresser dans l'amour de Dieu, pour vivre de Dieu.
Par des mots simples, ce moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille, dit le pape François, qui ajoute « Les moments de prière en famille peuvent avoir plus de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous les discours. »
Chers auditeurs, nous voudrions clore notre propos avec ce témoignage d'un couple ayant 34 ans de mariage.
Pour nous, comme certainement tous les parents, nous voulons donner le meilleur de ce que nous avons reçu et choisi en couple. La tâche reste immense et inachevée. Le meilleur, ce qui nous fait vivre et avancer dans la vie, c'est ce que nous avons dans nos cœurs. En premier lieu, notre vie d'enfant de Dieu. Très humblement, nous voulons pratiquer la pédagogie de l'exemple. Plus facile à dire qu'à vivre au quotidien. Mais nous avons aussi envie de transmettre notre façon de vivre, nos voies, nos amitiés, nos réussites. Et nous savons que nous transmettons aussi le reste par nos manquements, nos erreurs, nos contradictions. Malgré tout, nous avons essayé de semer dans les cœurs de nos enfants et nous comptons humblement sur la Providence pour que des fruits germent en eux. Nous avons mesuré notre pauvreté dans la transmission quand à 16 ans, notre fille nous dit « Ton Jésus, j'y crois pas ». Quand des paroles violentes sont échangées entre frères et sœurs, ou encore quand ils font des choix différents des nôtres. Il nous faut lâcher prise, renoncer à la toute-puissance et accueillir la façon dont chacun prend en main sa vie à sa manière. Notre mission de parents de jeunes adultes est désormais de les accompagner en préservant toujours les liens qui nous unissent, en les aimant d'un amour inconditionnel et en confiant chacun d'eux au Seigneur et à Notre-Dame de grâce.
En conclusion, rappelons-nous que dans le mariage, nous ne sommes pas seuls. Dans tous les moments, qu'ils soient difficiles ou non, Dieu nous aide de sa grâce. La grâce, c'est la Trinité, l'esprit d'amour dans notre cœur. Cette grâce nous permet d'avancer sur notre chemin de vie dans une charité bienveillante. Dieu ne nous a-t-il pas dit
« Ma grâce te suffit » en France. Un jeune baptisé sur 15 va à la messe le dimanche. Nous devons les aider à devenir des chrétiens adultes qui s'engageront dans la vie en suivant les valeurs chrétiennes si différentes de celles du monde dans lequel ils vivent. À nous de les encourager très tôt à entrer en relation dans ce monde sans renoncer à leur rencontre avec le Seigneur et aux valeurs acquises dans leur famille.
Merci.
Nous vous remercions.
Donc, Olivier et Roselyne, nous avons Julie et Sébastien qui nous appellent de Strasbourg. Bonjour.
Bonjour,
bonjour
Julie, bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Bonjour.
On voulait vous poser la question suivante. Il y a d'autres éducateurs dans la vie de nos enfants, instituteurs, entraîneurs, professionnels, oncles, tantes, mais aussi livres, films, informations. Comment reprendre tout cela avec eux?
Oui, le Conseil pontifical pour la famille reconnaît que les jeunes sont très sollicités à l'extérieur et c'est au rôle des parents de trouver des adultes dignes de confiance pour leur permettre de se confier. Parfois, il est plus facile aux jeunes de parler à des personnes extérieures que de parler à leurs parents.
Et puis, on pourrait voir que dans l'évolution du jeune, il y a un moment où on sent que le jeune commence à décrocher, qu'il montre un peu moins d'intérêt, moins de dynamisme pour la prière et autres. Et donc, il est important à ce moment-là de réagir très rapidement, soit en pouvant organiser un moment particulier avec l'enfant, où on va essayer de lui faire mieux comprendre les textes. Ça peut être à la fin de la messe, essayer de réagir sur l'homélie. Tiens, qu'est-ce que j'ai compris, moi? Tu as compris ça? Et lui donner du sens. En fait, souvent la question, c'est une question de sens. Donc il est important de donner du sens et montrer que ce à quoi nous vivons, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est la racine de notre vie et que cela guide notre vie fondamentalement. Cela peut être aussi profiter des moments un peu particuliers de la liturgie. Là, nous avons une Noël, nous allons entrer dans le carême, nous aurons bientôt Pâques. Donc, profiter de ces moments pour remettre de la lumière sur ces moments et expliquer en quoi ces moments sont importants. Et ce qui est vrai, Rosine, tu pourrais peut-être expliquer, toi. Non ? Voilà, mais je ne sais pas si nous avons répondu, Julie et Sébastien, pardon. L'idée est de dire, oui, il y a beaucoup d'éducateurs, chacun apporte sa part, mais c'est à nous de comprendre que si à un moment, l'enfant ne nous écoute plus, il nous faut mettre dans son entourage, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pourra lui parler de Dieu, ça peut être son parrain, sa marraine, ou un prêtre, un jeune prêtre, etc. Ça peut être aussi l'emmener, le faire choisir une messe, hein, si la messe auquel qu'il n'aime pas, lui faire le tour des paroisses pour trouver une messe où il y aura plus de jeunes et où il ne se sentira pas seul. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Julie et Sébastien pour votre appel. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter un message pour les auditeurs de Radio Maria?
Juste un dernier message, c'est juste insister sur la prière conjugale, hein, rappelant que le Christ nous a donné un sacrement de mariage qui unit le Christ et le couple, que la prière conjugale est donc le fait que le Christ veut exprimer son amour à son Père à travers cette prière conjugale et qu'à ce moment-là, nous pouvons mettre sous le faisceau lumineux du regard de Dieu nos enfants pour bien les comprendre, bien les aider et mieux les aimer. Et ça va permettre d'alimenter la prière familiale. Voilà.
Et puis je veux juste terminer, moi, si tu permets, chérie, juste en nous disant que si chacun de nous ne réserve pas un temps pour se désaltérer à la source, c'est-à-dire à Dieu, toutes nos relations entre époux et avec les enfants se flétriront comme des plantes qui n'ont pas de soif.
Merci pour votre écoute, merci pour vos questions.
Merci.
Nous espérons vous avoir éclairé sur la pensée du Père Caffarel pour le couple, les enfants et la transmission.
Merci beaucoup Roselyne et Olivier. À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci.